Chapitre 84. Le chasseur de lapins se tourne vers la glace du vestibule, ceint sa tête du bandeau qu'il serre fort dans la nuque. D'un geste devenu familier, il repousse quelques oreilles de son visage, croise son regard dans le miroir et se sent empli d'une force glaçante. Il est de nouveau un chasseur. Il sort un des téléphones à carte et envoie le fichier audio à Oscar. Il entend la sonnerie de son smartphone dans la chambre, puis la comptine qui retentit. Oscar est probablement seul, mais par précaution, le chasseur de lapins vérifie la salle de bain, puis le salon qu'il fouille rapidement. À travers les vitres striées, il aperçoit l'eau du port, noire comme du goudron. Il s'approche de la chambre, pousse la porte et entre. Un match de football passe à la télé dont le son est coupé. Les seuls bruits qu'on perçoit sont les petits crépitements quand l'image change. Une lueur bleu-gris jette ses mornes reflets sur les murs de la pièce. Il comprend aussitôt qu'Oscar s'est caché dans le dressing derrière la porte coulissante en verre blanc et qu'il est probablement en train d'appeler la police en ce moment même. Tout est si banal. Tout devient étranger quand la mort s'invite. Un verre de whisky est posé sur la table de chevet. Il voit les bords usés des pieds de la table, le couvre-lit qui a commencé à s'effilocher, les taches sombres sur la moquette et les traces de chiffon sur le miroir. Dans le dressing, Oscar fait tomber son téléphone. Ses mains doivent trembler à l'idée irréelle que ce qu'il redoutait est en train d'arriver. Il sait que le bruit l'a démasqué. Mais il se cache quand même, puisque son cerveau s'accroche à l'espoir que le tueur n'a rien entendu, qu'il ne va pas le trouver. Quelques cintres s'entrechoquent sur la tringle. Le sol se met à vibrer lorsque le système de préchauffage des quatre moteurs diesel finlandais du navire se met en marche. Le chasseur de lapins attend quelques secondes avant d'aller donner un coup de pied dans la porte coulissante. Il recule machinalement lorsque les débris de verre s'éparpillent sur la moquette et autour des jambes d'Oscar von Krutz. Le quinquagénaire s'affaisse sur le sol comme un enfant effrayé et se retrouve accroupi dans la penderie. Il lève la tête et le fixe. Un souvenir fuse dans la tête du chasseur. Il voit la panique des lapins quand il relevait les pièges, retournait les cages, y glissait la main et les attrapait par les pattes arrière.
« Je vous en supplie, je peux payer, j'ai de l'argent, je vous promets. »
Le chasseur de lapins s'avance et le saisit par la jambe, mais Oscar gigote tant pour se dégager qu'il est obligé de le lâcher. Il le frappe deux fois au visage, repousse ses bras avec une main et rattrape sa jambe. Oscar crie quand il le tire dans la pièce et attache sa cheville à un des pieds du lit.
« Lâchez-moi !»
hurle-t-il. Le chasseur de lapins reçoit un coup de pied sur le bras. Il retourne sa victime, le force sur le côté et lui bloque les bras dans le dos.
« Écoutez, vous n'êtes pas obligé de nous tuer, » allait Oscar. « On était jeunes, on ne comprenait rien. »
Le chasseur de lapins le bâillonne avec du ruban adhésif, puis s'éloigne un peu pour l'observer un instant. Il le voit lutter pour se libérer, le voit se tordre bien que les colliers de serrage lui cisaillent la peau. Il a fait deux séjours en Irak, il connaît l'effet dévastateur de l'acte de tuer. Il sait qu'il faut une volonté de faire pour donner la mort, et il a fait l'expérience de l'épuisement qui s'ensuit. Autrefois, quand il suivait la formation de base Bud S, il se disait que ses camarades et lui étaient des mecs plutôt normaux. Mais les tueries dans le sud de Nasiriyah les avaient remplis d'une présomption démesurée. Les cibles n'étaient pas des individus pour eux. Ils appartenaient à une force destructive qu'ils risquaient leur vie à combattre. Il y avait une solidité, une entente. En revanche, tuer un être humain une fois rentré chez vous sans uniforme, ce n'est pas pareil. C'est un acte solitaire et bien plus puissant. La décision et la responsabilité n'incombent qu'à vous. Il vérifie l'heure et sort le couteau qu'il compte utiliser, un poignard SOCP façonné comme une dague chinoise dont la lame et le manche forment une seule pièce de métal noir. C'est une arme équilibrée, avec une pointe affûtée à double tranchant et un anneau au bout du manche. Le chasseur de lapins décrit un rapide mouvement de recul, bloque la jambe libre d'Oscar avec un genou, maintient son torse d'une main et découpe le devant de sa chemise. Il regarde son ventre poilu qui bouge rapidement au rythme de sa respiration et enfonce le couteau 10 centimètres sous le nombril. Il glisse souplement à travers tissu et membrane quand il ouvre l'abdomen presque jusqu'au sternum. Avec un sourire, il croise les yeux écarquillés d'Oscar et plonge sa main entière dans la cavité abdominale. Il sent la chaleur corporelle à travers le plastique du gant. Oscar tremble de tout son corps. Du sang ruisselle de la blessure le long de ses flancs. Le chasseur de lapins saisit les intestins et les arrache, laisse les boyaux pendre entre les jambes d'Oscar, juste quand on frappe à la porte de la suite. Des coups puissants. Il se lève, attrape la télécommande, remet le son de la télé, va dans le vestibule en fermant la porte de la chambre derrière lui, s'avance vers la porte d'entrée et regarde par le judas. Un homme d'un certain âge, vêtu de blanc, attend avec un chariot de room service. Oscar a déjà eu le temps de commander un repas, il faut donc qu'il le réceptionne. L'homme frappe de nouveau. Le chasseur de lapins retire ses gants, les jette dans la valise et la referme. Il enlève rapidement les trophées autour de sa tête, les suspend à un cintre, se regarde dans la glace, essuie les éclaboussures de sang sur son visage, éteint la lampe et ouvre la porte. « Vous avez fait vite, » dit-il sans s'écarter pour le faire entrer. Des bruits sonores s'élèvent dans la chambre quand Oscar essaie d'attirer l'attention en donnant des coups de pied. « Voulez-vous que je vous serve dans le salon ?» demande l'homme. « Je vous remercie, ça ira très bien comme ça. »« Je m'en occupe avec plaisir, ce n'est pas un problème, » insiste l'homme en jetant un coup d'œil dans le vestibule. Dans la chambre, le verre de whisky se brise sur le sol. « Je ne vais pas manger tout de suite, vous comprenez ?»« Dans ce cas, il me faut juste une signature, » sourit l'homme. Le chasseur de lapins reste dans la pénombre et prend la note et le stylo. Il commence à signer quand il se rend compte que son avant-bras droit porte des traces de sang jusqu'au coude. « Tout va bien ?» demande le serveur. Il hoche la tête, croise le regard de l'homme et essaie de décider s'il doit ou non l'entraîner dans la salle de bain et lui trancher la carotide au-dessus du jacuzzi. « Bien sûr. Pourquoi ?»« Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret, » dit l'homme avec déférence, et il se retourne vers le chariot. Le martèlement sourd dans la chambre s'entend de nouveau quand le serveur lui tend le plateau. Le chasseur de lapins le remercie, recule dans le vestibule et referme la porte. Il pose le plateau par terre, regarde par le judas et se prépare à rouvrir la porte pour empoigner le serveur. À travers la lentille grand angle, il voit l'homme défaire les freins des petites roues du chariot sans se presser et s'éloigner dans le couloir. Rapidement, il enfile de nouveaux gants, ceint sa tête des oreilles de lapin et retourne dans la chambre. Une odeur de sang, de whisky et de vomi flotte dans la pièce. Oscar est en train de perdre connaissance. Il donne mollement quelques coups de pied et laisse son talon retomber sur le sol. Son visage est blanc et moite de transpiration et ses yeux errent dans le vague. Le chasseur de lapins éteint la télé, se dirige droit sur Oscar, saisit le paquet d'intestins et le traîne sur un mètre, tire violemment puis laisse tomber le tout sur la moquette. La douleur tire Oscar de son état d'inconscience. Il respire vite par le nez et cherche instinctivement à reculer. Il va mourir dans 3 minutes. Le vacarme qui s'élève dans l'esprit du chasseur de lapins redouble quand il regarde ses yeux paniqués. La chambre est silencieuse, mais en son fort intérieur, le chasseur de lapins est en plein tumulte, comme si quelqu'un tambourinait sur des casseroles et balançait des tasses en porcelaine dans une baignoire. Oscar fait partie des hommes qui ont violé une jeune femme, qui l'ont laissée inconsciente et en sang sur un tas de fumier, en croyant qu'ils allaient échapper à leur châtiment. Le sol tangue sous les pieds du chasseur de lapins comme lorsqu'un train est aiguillé sur une voie parallèle. Il prend appui sur le mur, s'efforce de respirer calmement et se concentre. Il voit l'empreinte de sang sur le papier peint et se dit qu'il va l'essuyer avant de partir, même si elle ne peut pas mener à lui. « Apparemment, tu sais pourquoi ceci t'arrive, » dit-il en sortant de nouveau le couteau. « Tant mieux, c'est le but. » Oscar Jean se tortille, lutte pour se dégager. Le sang coule de sa cavité abdominale sur la moquette qui l'absorbe et devient noire et luisante. Les haut-parleurs annoncent le départ du navire dans 30 minutes. Il est confiant. Il aura le temps de débarquer avant. On ne trouvera Oscar qu'au matin à Helsinki. Il regarde le couteau dans sa main, la langue noire et pointue d'un démon. Très bientôt, il va plonger la lame dans le cœur d'Oscar à travers le sternum, peut-être plusieurs fois. En attendant, son monde tremble, agité d'un concert de bruits et de sonneries semblables à ceux qui résonnent dans un casino. Ensuite, il sentira un vent le parcourir, qui laissera derrière lui le silence. Comme lorsqu'un lapin à terre remue une jambe. Quand l'animal s'immobilise, le calme se fait dans tout l'univers. Il existe un lieu figé où le temps s'arrête. Il tend vers ce lieu depuis toujours. Depuis son enfance chez ses grands-parents, après la messe du dimanche.